Olivier Roy, je suis ravi que tu aies pu participer à cette conférence, ce colloque. La thèse essentielle que tu défends, à savoir que le salafisme piétiste, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec le djihadisme, me semble avoir la caution empirique du terrain, c'est-à-dire énormément de cas ne relèvent pas du salafisme. Mais je voulais te demander, le fait d'avoir participé à cette conférence, en quoi ça t'a permis de renouveler ou d'approfondir ou de remettre en cause ta thèse fondamentale?
Il y a deux choses. D'abord, il y a la critique même de la thèse, c'est-à-dire la discussion sur la relation entre islamisation et radicalisation, qui, je dirais, se complexifie, parce qu'on est tous d'accord que le jeune radicalisé qui bascule dans la violence terroriste ou djihadiste est religieux. Bon, il n'est pas, il croit, bon, quand il se suicide, qu'il va aller au paradis. Et l'islam n'est pas un simple vernis, bien entendu. C'est absolument fondamental dans leur décision de franchir de faire le saut, hein, le saut dans le djihadisme ou dans le terrorisme. Donc, ça nous a permis, dans cette conférence, d'éclaircir un peu la notion de salafisme. Et c'est revenu chez beaucoup d'autres orateurs. On utilise aujourd'hui le terme salafisme de manière extrêmement vague, enfin, je dirais extrêmement laxiste. On appelle salafisme toute forme de néo-fondamentalisme. Voilà. Tout islam rigoriste, puritain et normatif est qualifié de salafisme. Or, il y a chez les salafistes aujourd'hui, sous la pression des événements d'ailleurs, très souvent une volonté de clarification. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport au radicalisme, qu'est-ce qu'on dit sur le djihad, et on voit bien par exemple avec les salafis égyptiens qui ont décidé de participer au processus politique, que les choix des salafis peuvent être extrêmement variés, alors que les Tunisiens, les salafis tunisiens ont plutôt basculé du côté djihad. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, bon, derrière les étiquettes, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les pratiques religieuses réelles? Et le deuxième point, enfin, non, toujours dans cette question des pratiques religieuses réelles, c'est qu'on fait toujours, on débat toujours sur le dogme. Et on dit, bon, bah, dans le fond, les djihadistes ont le même dogme que les salafistes non-djihadistes. Et je crois que c'est une erreur d'approcher la question à travers la théologie. Je crois qu'il faut approcher la question à travers ce que j'appelle la religiosité. C'est-à-dire comment les acteurs vivent leur rapport au religieux. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Bon, alors, un exemple, par exemple, que m'a rappelé ce colloque, le nashid, hein, c'est-à-dire la musique chez les djihadistes. On voit comment ces jeunes qui viennent d'une culture jeune, donc qui sont passionnés par le rap, par le hip-hop, etc., renoncent aux instruments quand ils passent au djihadisme, ce qui est tout à fait conforme au salafisme, mais vont survaloriser une autre production musicale qui est le nashid, c'est-à-dire une espèce de mélopée a cappella sans musique. Et chez les djihadistes, c'est fondamental. Ils mettent des nashids à fond la caisse quand ils sont en train de rouler dans leur 4x4 avec les mitrailleuses. Ils envoient ça à leurs copains, etc. Donc là, on a quelque chose. Bon, les salafistes sont pas anti-nashid, mais pour eux, vraiment, la musique, c'est pas très bien, même a cappella. Et donc, on a une forme de religiosité. On qualifie ça de quoi? C'est de la mystique. Le nashid vient souvent d'un certain soufisme. Est-ce que ça veut dire que il y a des formes de soufisme entre guillemets qui fonctionnent chez les djihadistes, etc. Voilà. Pour moi, c'est maintenant c'est ça la vraie question. On voit qu'ils attachent plus d'importance à cette musique qu'à faire les 5 prières par jour, ce qui est exactement le contraire d'un positionnement salafiste. Donc ça, le colloque m'a permis de trouver des exemples ailleurs. Le deuxième point qu'a apporté ce colloque, c'est la comparaison avec l'étranger. Et ça, c'est fondamental. Ça n'est que le début des travaux là-dessus, mais c'est la première fois que moi je me retrouve dans un colloque où on a des collègues de 5 ou 6 pays européens qui sont justement qui ont travaillé bien entendu en sociologie, etc., sociologie généraliste, mais qui permettent de faire de vraies comparaisons. On voit par exemple que les pourcentages de convertis sont très semblables en France, en Allemagne et aux États-Unis, mais pas en Belgique. voilà, en Belgique, il n'y a que 6% de convertis parmi les djihadistes. Au niveau des classes sociales, on s'aperçoit que les Anglais sont beaucoup plus diversifiés socialement que les Français et les Belges. On voit qu'en Italie, bon, le nombre est très faible de djihadistes, mais la cellule familiale, j'allais dire, résiste au passage au djihadisme. On voit qu'en Italie, il y a très peu de seconde génération et que ce n'est pas forcément un problème démographique. En Belgique, il y a beaucoup de troisième génération, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, etc. Et là aussi, c'est une piste maintenant pour approfondir ces comparaisons et dégager des traits communs. Mais les traits communs, on en a trouvé déjà deux. Effectivement, très peu des jeunes ont une vie religieuse de long terme, je dirais, avant de passer au radicalisme, et le poids des anciens délinquants est très élevé à peu près partout.
Alors, comment tu relis ta thèse à ce qu'on pourrait appeler la doctignorance? Je veux dire, cette thèse globale, finalement, tu l'étends à la modernité. Je veux dire, la doctignorance... La sainte ignorance, comment tu la relis en quelque sorte à ce phénomène spécifique? Parce que dans la sainte ignorance, tu traites quand même un phénomène beaucoup plus global. Il n'y a pas que l'islam. Il y a beaucoup de religions, donc tu penses que c'est l'un des traits majeurs de ce qu'on pourrait appeler notre modernité, notre contemporanéité.
Oui, la déculturation du religieux. C'est-à-dire que les formes, si aujourd'hui, les formes dynamiques dans les différentes religieuses sont la plupart du temps de l'ordre du néo-fondamentalisme, aussi bien dans le judaïsme, le christianisme, sous ces deux aspects, ou l'islam. C'est parce que le fondamentalisme est mieux adapté à la globalisation que les autres formes religieuses. Et en particulier parce que le fondamentalisme rejette la culture, sous différentes formes, de manière différente, etc., etc. Mais c'est vrai également chez les Lubavitch, par exemple, qui vont utiliser le yiddish comme langue de communication, mais qui refusent totalement d'ouvrir une pièce de théâtre ou un roman écrit en yiddish, par exemple. Bon. Et chez les salafis, il y a un rejet total de la culture, chez les salafis sunnites. Les salafis sunnites sont iconoclastes. Ils détruisent les Bouddhas d'Afghanistan, Palmyre, etc. Alors que c'est pas vrai chez les chiites. Hein. Jamais personne n'a brûlé Persépolis ou essayé de brûler Persépolis au pire moment de la révolution islamique d'Iran. Donc la sainte ignorance marche moins avec les chiites, moins avec les catholiques, et elle est maximum chez les évangélistes et les salafistes. Et alors, je relis ça à la radicalisation, parce que pour moi... disons, quand on regarde les catégories de radicalisés, on a très souvent cette rupture générationnelle. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de transmission culturelle de leurs parents ou qui rejettent la transmission culturelle. C'est-à-dire que les born again, ceux qui font un retour à l'islam, très souvent, et ça t'es bien placé pour le savoir, après un séjour en prison ou pendant un séjour en prison, ou bien les convertis, qui rompent évidemment par définition avec la culture et la religion de leurs parents, ces deux catégories, born again et convertis, se refont une religion en kit, et une religion qui n'est surtout pas connectée à une culture donnée. Alors on voit, par exemple, dans le langage des jeunes salafis français, où on a l'accent, très souvent l'accent banlieue, où on parle « jeune », mais on va parsemer son discours en français de mots empruntés à l'arabe. On va dire « oui, mon frère, moi je suis le din, et je cause pas au koufar ». Bon, voilà. Et ces mots sont évidemment complètement décontextualisés. Et pas du tout rattaché à une tradition savante, ni contextualisée dans le cadre de cultures données. Ces jeunes, la plupart du temps, ne parlent pas, ou plus exactement n'utilisent plus la langue de leurs parents. C'est pour ça que les secondes générations sont pour moi surreprésentées. C'est pas une question de temporalité, puisque sur 20 ans, 1995-2015, on a le même pourcentage de seconde génération. Et en tout cas en France, on ne voit pas beaucoup arrivés de troisième génération. Pourquoi ? Parce que le décrochage culturel est maximum dans les deuxièmes générations, ce qui est assez logique. On voit très peu de Turcs qui se radicalisent, parce que justement, pour des tas de raisons, la transmission culturelle et religieuse est beaucoup plus assurée dans les familles d'origine turque que dans les familles d'origine maghrébine. Et ce qui explique qu'il y ait moins de, entre autres, qu'il y ait moins de radicaux en Allemagne, par exemple. En Hollande, la radicalisation touche essentiellement des gens d'origine marocaine, alors qu'il y a une très forte population immigrée d'origine turque. Donc voilà, je pense que ce que j'appelle la sainte ignorance est une des clés, hein, je ne dis pas la clé, mais une des clés de la radicalisation.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde ensemble l'un des thèmes aussi sur lesquels tu travailles, à savoir ce qu'on pourrait appeler le rapport à soi, aux parents, à la subjectivité et au monde. Je prends le cas français, par exemple. La laïcité introduit quand même une relation frontale avec ces jeunes. Et est-ce que la désislamisation, est-ce que la rupture avec les traditions n'est pas plus accentuée en France, où on voit bien d'ailleurs que l'intermariage est beaucoup plus élevé qu'en Angleterre? En France, par exemple, des jeunes d'origine maghrébine se marient très facilement avec des Français dits de souche, alors qu'en Angleterre, on voit très bien que le passage ne se fait pas par le biais de la famille de manière aussi récurrente qu'en France. Alors, il y a d'un côté la désislamisation en France qui me paraît, et encore une fois à discuter, plus accentuée qu'en Angleterre, où il y a quand même une continuité. Quand on regarde le profil des djihadisés anglais, on voit bien qu'il y a quand même un ancrage dans la tradition qui est beaucoup plus forte qu'en France. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas cette spécificité française qui est quand même importante dans ce phénomène-là, et belge d'ailleurs.
Il est paradoxal de voir que la France produit plus de radicalisés et en même temps plus d'intégration, si je peux dire. Bon. Et donc il y a un lien entre les deux, bien entendu. Il y a beaucoup plus de mixité, disons, ethnique en France qu'en Grande-Bretagne ou en Belgique ou en Hollande, sans parler bien sûr du Danemark. Bon. En France, la laïcité demande une assimilation, hein, c'est très clair. Et la laïcité, c'est pas seulement contre l'islam. La laïcité, en France, est en train de devenir, disons, un mouvement anti-religieux. C'est-à-dire que quand on dit le religieux doit rester dans le privé, c'est un contraire à la loi de 1905 qui ne parle pas du privé mais du public, qui parle de l'exercice public de la religion. Et deux, ça s'adresse à toutes les religions, hein, aussi bien le christianisme, le judaïsme, etc. La kippa et le kasher sont des victimes collatérales du combat contre le voile et le halal. Bon. Donc le problème, c'est que la laïcité française chasse le religieux et le met dans les marges, et donc laisse le religieux dans les mains des radicaux. Et on n'encourage pas la présence dans l'espace public d'un islam reconnu, légitime, et qui pourrait justement contribuer à déconnecter la religion et l'engagement politique violent. Bon. Les seuls imams modérés qu'on présente à la télévision sont des gars qui parlent à peine le français, mal attifés, folkloriques, et qui font honte aux jeunes. Il faut insister là-dessus. Et par contre, on va diaboliser Tariq Ramadan, qui parle parfaitement le français, qui a une pensée structurée, quoi qu'on puisse penser de Tariq Ramadan. Et je crois que c'est ça, c'est ce vide, cette expulsion du religieux de l'espace public qui correspond et à la déculture, qui implique, oui, qui entraîne, qui accentue et la déculturation du religieux et la radicalisation des marges du religieux.
Alors, puisque tu vis en Italie depuis 5-6 ans, tu as une expérience aussi de ce qu'on pourrait appeler la jeunesse religieuse et surtout la place du religieux en Italie, surtout dans les nouvelles générations. Si tu compares la France et l'Italie sur ce plan, mis à part le fait qu'en Italie, c'est la deuxième, enfin je veux dire à peine la deuxième génération, par conséquent le nombre de djihadistes, si tu veux, aux alentours de 90, est quand même beaucoup plus faible qu'en France, comment tu ferais la comparaison entre les Italiens et les Français ?
Mais en Italie, le religieux a droit de cité. Voilà, il y a des crucifix, l'évêque est régulièrement dans nos rencontres, c'est normal d'inviter l'évêque, comme on invite le maire, etc., etc. Et il y a des mouvements religieux, populaires ou de toutes les classes sociales, laïques en Italie, comme les Focolare, par exemple. Ce qui fait qu'il y a un contact avec les musulmans, entre croyants italiens et musulmans croyants, qui ne se fait pas par les institutions, mais qui se fait tout simplement par la cohabitation des gens. Le mouvement Focolare, qui est très important, qui a des centaines de milliers de membres en Italie, a ouvert une section musulmane, hein. Alors que c'est un mouvement d'église, où les gens font des vœux de pauvreté, etc., etc. Et il y a des milliers de musulmans qui ont rejoint la branche musulmane des Focolare. Donc les gens peuvent échanger, je dirais, au niveau de la religiosité. Ils ne sont pas obligés de passer par la case « la religion est privée, ne parlons pas de religion », qui est obligatoire en France avant d'entamer tout dialogue.
Alors, dernière question sur le livre que tu as fait d'entretien, où tu relis en quelque sorte ta biographie à ce qu'on pourrait appeler des formes de conceptualisation du rapport entre le religieux, le privé, le public, la subjectivation. Alors, comment tu l'appliques maintenant, je veux dire, dans cette dernière partie qui ne figure pas totalement dans ce livre, puisque ce livre a été fait il y a 2 ans?
Mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est la permanence des espaces de radicalisation, si je peux dire. Bon, et on voit bien, et on en a parlé dans ce colloque, que par exemple au Liban, comment on est passé d'une contestation anti-impérialiste gauchiste à une contestation anti-impérialiste islamiste, avec au Liban les mêmes acteurs. Hein. Alors qu'en France, on voit entre Action Directe, disons, la dernière radicalité violente, et les groupes d'Al-Qaïda, il y a un saut. Ce ne sont pas les mêmes personnes, même si on a pu voir que les anciens d'Action Directe, d'une certaine manière, considèrent que les gens d'Al-Qaïda, les jeunes islamistes, sont, oui, pas si éloignés que ça de leur vision des choses-là. Et donc, ce qui est ici, ce qui est fascinant, c'est d'essayer de comprendre comment on bascule dans la radicalité. Et dans mon livre « Enquête de l'Orient perdu », je compare ça, par exemple, avec le mouvement de la gauche prolétarienne. C'est-à-dire, on trouvait la même... C'était l'époque de la révolution culturelle chinoise. Hein, c'est-à-dire de la haine... pas de classe, mais de la haine générationnelle, où on rejetait les parents, où on cassait les statues, etc. Là, on voit l'iconoclastisme de Daesh comme l'exemple d'une sorte de barbarie médiévale, alors que il est profondément moderne. C'est la révolution culturelle chinoise, c'est les Khmer Rouges, et c'est lié à ces formes de révolte générationnelle qui font que depuis les années 60, la jeunesse s'est érigée en catégorie politique. C'est-à-dire que la révolte, c'est des mouvements de jeunes. C'est pas des partis politiques comme avant les partis communistes par exemple qui n'étaient pas spécialement des mouvements de jeunes. Donc là, il y a à repenser sur cette question de la jeunesse.
Merci beaucoup, Olivier.